I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Depuis Cliffhangers, enfin non, depuis Parbleu, pour lequel j'ai une affection particulière, c'est devenu compliqué, Rani.
Moi aussi j'ai une affection particulière pour Parbleu.
C'est vrai?
Allez, coming out.
Hein?
Moi ça ne surprend plus.
Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit:
t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, un escadron de haut vol. Ils larguent leurs critiques façon frappe chirurgicale et ne ratent jamais leur cible. En un mot, l'élite du podcast ciné. J'ai le plaisir de retrouver Julien Charpentier.
Bonjour Clémence.
Bonjour à tous.
Rafik.
C'est moi, bonjour Clémence.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, si notre studio était une base aéronautique, ça serait notre tour de contrôle. Bonjour Alain.
Salut.
Et on dit merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Si vous êtes du côté de Paris, demain, ce samedi 28 mai, dernier appel, c'est la séance capture. Au programme Millennium Actress, un chef-d'œuvre de la Japanime signé Satoshi Kon, vous pouvez réserver vos places dès maintenant sur le site du Club de l'Étoile, clubdelétoile.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, il y a de la nostalgie dans l'air. Le 13 mai 1986, le public découvrait Pete Mitchell, jeune as du pilotage et tête brûlée, incarné par un tout jeune Tom Cruise. Sa carrière commençait à décoller, mais c'est ce rôle qui l'avait propulsé au rang de superstar. 36 ans après, quasi jour pour jour, Maverick est de retour. Il revient avec Top Gun Maverick dans les rangs du United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor Program. C'est le vrai nom de Top Gun, cette école réservée à l'élite de l'aéronavale américaine. Mais cette fois, il change de rôle. Son objectif, former un détachement de jeunes pilotes fraîchement diplômés pour une mission à haut risque. Aux commandes de ce legacy-quel, Joseph Kosinski. Il s'était fait connaître en 2010 avec Tron l'Héritage et avait déjà fait tourner Tom Cruise dans Oblivion en 2013. Mais à l'origine, c'est le regretté Tony Scott, réalisateur du premier Top Gun, qui devait rempiler. Dès 2010, la Paramount le rappelle et il commence à réfléchir à cette suite. Après son suicide, le projet est maintenu et finalement confié à Joseph Kosinski en 2017. Côté casting, Tom Cruise évidemment, mais aussi Val Kilmer. Il avait fait campagne sur sa page Facebook pour apparaître dans le film. Sa présence avait finalement été confirmée en 2018. Prévue pour l'été 2019, la sortie est repoussée à 2020 pour peaufiner davantage les scènes aériennes. Sortie repoussée à nouveau plusieurs fois à cause du Covid. Après une première mondiale le 4 mai à San Diego et une présentation au Festival de Cannes le 18, Top Gun Maverick sort finalement dans les salles françaises ce mercredi 25 mai. Alors, c'est quoi votre météo ? Julien, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu.
Soleil couchant.
Soleil couchant, très bien. Rafik ?
Bah, le truc quand on est en avion, c'est qu'on peut aller au-dessus des nuages et avoir l'impression qu'il fait beau. Mais ça peut n'être qu'une impression.
Ah, joli. Sef ?
Soleil couchant, mais en fait tu te rapproches et en fait tu vois que c'est un panneau publicitaire complètement factice. Voilà.
Très bien, vous allez nous expliquer ça tout de suite. Alors on va commencer dans l'ordre. Julien, je te laisse nous développer un petit peu ce soleil couchant.
Soleil couchant,
Pourquoi ? Alors, tout simplement parce que on est donc sur la suite de Top Gun, on est sur la suite d'un film de Tony Scott, donc ça me semblait déjà à propos. Ensuite, parce que globalement, moi je trouve que c'est un film qui est très satisfaisant, et en même temps, c'est un film presque d'une époque totalement révolue. C'est vraiment un film à l'ancienne, et c'est dans ce sens-là que Le Soleil est couchant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec... Stéphane n'arrête pas de m'appeler hors antenne Monsieur Années 90, parce que c'est vrai que c'est une décennie que j'aime particulièrement, et c'est un film des années 90 qu'on voit là. Il a beau sortir en 2022, il est construit comme un film des années 90, l'histoire est racontée de la même façon, la façon dont on pense le protagoniste, l'antagoniste, le love interest, etc., tout ça est extrêmement pensé comme un film des années 90. Aimant particulièrement cette époque, j'étais plutôt été ravi de voir ce film-là. Je suis un peu surpris par la dithyrambe que le film prend, parce que je suis pas sûr qu'il la mérite entièrement non plus. C'est un film très satisfaisant à mon sens. Je dirais pas non plus que c'est le plus grand film qu'on ait vu cette année. Faut se calmer, même si on a une année relativement faible, parce que pour l'instant 2022 est un petit peu tristoun. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce film-là à sauver. Beaucoup, beaucoup de moments qui sont à la fois, parfois, c'est un film qui joue sur la nostalgie, beaucoup. Et le fanservice est devenu aujourd'hui, malheureusement, presque une marque de fabrique hollywoodienne qui recycle ad nauseam plus qu'ad libitum, ou ad libitum, vous le dites comme vous voulez, les recettes qui ont fonctionné. Mais je trouve que ce film-là, même s'il y a beaucoup de fanservice, même s'il y a beaucoup de nostalgie, reste un film si tu enlèves tout ça. Et ça, je trouve que c'est plutôt un point positif, puisque globalement, j'ai vu, moi, le portrait passionnant en creux d'une star qui est Tom Cruise, que je trouve vraiment, vraiment, vraiment passionnant à regarder en soi. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que Tom Cruise, depuis plusieurs années maintenant, c'est une garantie. Ça ne veut pas dire qu'il réussit tous ses films. Loin de là. Il a fait quelques trucs comme... qui fait avec Edward Zwick,
la suite de Jack Reacher.
Voilà, qui sont problématiques. Mais Tom Cruise, c'est un artiste qui s'investit. Et il s'investit pour que ses films aient une facture. Donc évidemment, on sait que c'est le producteur de ses propres films, donc c'est le patron. Et qu'il va engager des réalisateurs avec lesquels il s'entend bien, des scénaristes avec lesquels il s'entend bien. Christopher McQuarrie a fait une passe sur ce film-là. Joseph Kosinski, comme tu l'as dit dans l'intro, il a déjà travaillé sur Oblivion. En fait, il a travaillé avec les trois quarts des gens qui sont sur ce film. Donc on sait, quand on va voir un Tom Cruise, qu'on va voir quelqu'un qui a un standard.
C'est presque lui qui a casté finalement l'équipe avec qui il a travaillé. Hein.
Complètement. Complètement. Et moi, je trouve ça passionnant de voir ce gars-là, qui est presque un dinosaure à Hollywood, continuer d'essayer de faire progresser son média à travers une façon de faire du cinéma qui n'existe plus.
Oui, mais aussi en ayant l'impression d'être le sauveur, en tout cas l'atlas d'Hollywood, celui qui doit porter cette façon de faire des films. Il y avait eu une fuite, un leak d'un fichier audio qui avait été enregistré sur le plateau du dernier Mission Impossible. On entendait Tom Cruise péter un câble et engueuler toute son équipe, et qui était assez intéressant parce qu'en fait, il les engueulait en leur rappelant qu'ils avaient une responsabilité vis-à-vis de tout le monde, en fait. C'est-à-dire que... Et à un moment donné, il disait, moi...
Vis-à-vis de l'industrie. Voilà.
Comment ?
Vis-à-vis de l'industrie.
Vis-à-vis de l'industrie, ouais. Tu vois. Moi, je fais des films, et je fais des films pour que ce putain de truc continue à exister, etc. Parce que déjà, à l'époque, on sentait que Covid ou pas Covid, c'était périclitant, quoi, que ça partait en vrille, que les gens s'intéressaient de moins en moins à ce média, ou en tout cas de moins en moins aller en salle. Et effectivement, lui se voit comme celui qui peut garantir des entrées salles, et que du coup, il y a une énorme responsabilité qui lui revient. Ce qui rejoint sa mégalomanie parfaitement, mais c'est vrai que c'est une mégalomanie qu'il, contrairement à d'autres, il sert. C'est-à-dire il se donne les moyens d'être mégalomane parce qu'il y va à fond et qu'il met la barre très haut.
Ce que tu dis là, c'est l'exemple que tu donnes de cette engueulade qu'a leaké sur Internet. Mmh. Elle a été au début comparée à celle de Christian Bale, qui avait aussi pété un câble sur Terminator Renaissance. Et très vite, en fait, cette comparaison, elle était nulle et non avenue, parce que tu t'aperçois que d'un côté, c'est effectivement un artiste en colère qui pète officiellement un câble sur quelqu'un, alors que dans l'autre cas, c'est véritablement un chef d'entreprise qui pète un câble en disant à ces gars, vous ne pouvez pas
lâcher,
ne pas avoir d'exigence.
C'est ça. Donc ça, c'est très parlant sur la personnalité de ce personnage. Mais ça, moi, ça me renvoie au tagline de l'affiche française d'époque, hein, là-haut parmi les meilleurs. C'est vrai que le premier Top Gun avait quand même de façon à peine déguisée ce discours élitiste. Mais d'un élitisme spécifiquement américain, quoi, qui était cette idée que n'importe qui peut le faire, mais simplement si t'as écrasé tous les autres et que t'as été bien meilleur qu'eux.
Oui. Alors, on parlait de Tom Cruise et du fait qu'il se sente responsable. C'est lui notamment qui a poussé les jeunes recrues, hein, ceux qui incarnent cette nouvelle équipe de pilotes. Il les a suivis, ils ont suivi un entraînement de 5 mois pour pouvoir encaisser toutes les séquences de tournage, les séquences aériennes, et notamment les séquences où ils se prennent des jets dans la gueule. Et en fait, ce programme a été supervisé personnellement par Tom Cruise, qui s'est engagé auprès de la Navy à ce que ces hommes soient prêts, je cite.
Oui, non, mais voilà, donc nous, on a tendance à considérer que c'est James Cameron qui a la responsabilité de sauver Hollywood une fois tous les 10 ans, en montrant ce qu'on est censé faire. Comme,
mais bon, il met 15 ans à faire des films.
Voilà, c'est ça. Tom Cruise le fait effectivement plus régulièrement. Et du coup, ce film est un témoignage de ce qui le porte depuis au moins depuis le milieu des années 90, c'est-à-dire le moment où il est devenu son propre producteur. Moi, j'ai une confession à faire cependant par rapport à ma façon d'appréhender ce film. J'aime pas le premier Top Gun. Je fais partie de ces anciens ados snobs qui, en 86, ne comprenaient pas absolument, le délire qu'il y avait autour de ce film-là. Dans l'école où j'étais, c'était un vrai succès, hein, auprès des lycéens. Ça n'a jamais été fin, quoi. Il y a les gens adoraient ce film et je pense qu'on continue à l'adorer au fil des ans. Et moi, dès l'époque, j'étais avec mon Jack Burton dans mon coin à me dire, mais vous êtes con ou quoi, tu vois. Et c'est vrai que pendant longtemps, Top Gun a représenté un peu, pour moi, l'antithèse de ce que je voulais d'un blockbuster hollywoodien, en fait. Justement par ses effets publicitaires extrêmement appuyés, son récit un peu simpliste, voilà.
Ça frime aussi, non?
Oui, d'une certaine façon, mais c'est une frime publicitaire. Et ce discours sous-jacent qui me gênait un petit peu dans son comment dire, cette espèce d'ode à l'aristocratie, en fait, au geste aristocratique. Même si depuis, j'ai peut-être évolué par rapport à ces questions. Mais le truc, là où j'étais pris par surprise, c'est qu'évidemment, quand je vais voir Top Gun Maverick, vu qu'il s'agit d'un film qui n'a pas du tout nourri ma cinéphilie, je me suis réconcilié avec Tony Scott beaucoup plus tard, hein, dans les années 90. Même si c'est un film qui n'a pas nourri ma cinéphilie, j'arrive vierge de toute attente. Et le fait est que je me suis pas fait chier. Ce qui est devenu pour une habitude dans les films que je vais voir en salle, à l'exception des très grands, quoi, des Del Toro ou des Spielberg, etc. Je me fais généralement chier, quoi. Et ça m'a surpris, je me suis dit, mais comment se fait-il que tu puisses juste prendre un simple plaisir à un Top Gun? Parce que je voyais bien que j'avais affaire à du Top Gun, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Agréablement surpris, finalement.
Agréablement surpris et un peu triste, parce que j'ai réalisé que ce qui s'était passé, c'est qu'effectivement, le niveau général avait tellement baissé que les choses qui me déplaisaient dans Top Gun sont devenues moins pénibles, et que le simple fait qu'on prenne la peine de me raconter une histoire, de me développer des personnages aussi simplistes soient-ils, mais devenait tout d'un coup suffisant. C'est le minimum syndical, en fait. Le simple fait de fonctionner encore sur un système de payoff, par exemple, qui est un truc qui a complètement disparu du blockbuster aujourd'hui. Dans ce film-là, on te répète des choses dans la première heure jusqu'à ce que t'en aies marre. Parce que voilà, ils sont en train de s'entraîner sur une opération très spécifique, et on te dit bien qu'à ce moment-là, il faut tourner, et qu'à ce moment-là, il faut remonter, et qu'à ce moment-là, il y a les 5G qui leur tombent dans la gueule, etc., et que ça va rendre la chose difficile, me disent, pardon. Et que, bon, jusqu'à ce qu'en tant que spectateur, tu dises, bon, ça va, j'ai compris, quoi, vous allez le refaire combien de fois, cet exercice? Et là arrive la séquence où Cruise doit prouver que c'est faisable à son équipe et décide de prendre l'avion, et il se passe ce qui est prévu, il se passe que tu comprends tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tu es là avec lui dans l'avion et tu dis, ah oui, là c'est le moment où il doit faire ça, ah oui, là ça va être compliqué, ah oui, là il va s'en prendre plein la gueule, il risque de tomber dans les pommes. Donc c'est un payoff, c'est-à-dire que t'as été patient, on t'a bombardé avec ces informations-là, Et t'as cette récompense, et du coup, cette séquence qui arrive, au bout d'une heure et quart de film, un truc comme ça,
juste comme ça.
Bah, elle devient prenante. Elle a pas très peu de dialogue, y a pratiquement aucun dialogue dans cette scène. C'est essentiellement la respiration du personnage qui rythme le truc avec le moteur de l'avion, et du coup, t'as un instant de cinéma. C'est-à-dire, t'as un mec dans un cockpit en train de crever à petit feu, on va dire, quoi, et tu sais exactement ce qui lui arrive, et tu le partages avec lui. Et là, tu vis une expérience. Donc, c'est pas grand chose, je suis pas tombé des nues en disant ah, c'est génial, j'en ai larmes aux yeux. J'ai dit, ben oui, mais c'est ça le cinéma.
Je suis assez d'accord. En fait, il y a un truc dont on parlait en antenne, Clémence et moi, et que tu viens de redire, qui est, bon, globalement, on pense tous en ce moment que le cinéma va pas bien, et qu'un film sur deux qu'on voit est nul. Donc on en arrive au stade où quand un film est à peu près écrit, on fait oh, dis donc! Ils savent construire des personnages incroyables, c'est formidable. Et t'as une espèce, du coup, d'envolée critique qui te dit que c'est génial, alors qu'en fait, pas vraiment. Si tu regardes un film comme Top Gun Maverick, je pense honnêtement que tu ne peux pas être surpris une seule fois dans le film quand on parle du développement scénaristique. Il se passe exactement ce qui doit se passer. Tu sais 20 minutes à l'avance où une scène va. Tu le sais. Je n'ai pas été surpris une seule fois. Mais le simple fait que c'ait été construit, le simple fait qu'on m'ait dit, mais tu sais, en fait, on va t'emmener là. T'inquiète, c'est confortable, mon gars. Mais c'est aussi plaisant parce qu'il y a eu un travail de scénariste. Bon, ils sont beaucoup, hein, puisqu'il y a deux scénaristes à l'origine de l'histoire, donc en gros ceux qui ont écrit le traitement, et ensuite il y a trois scénaristes qui ont travaillé l'un derrière l'autre et non pas ensemble.
Ouais, c'est Peter Craig et Justin Marks. Justin Marks étant le fanboy, c'est-à-dire celui qui ramène justement toutes les références au film original de ce que j'ai compris, Peter Craig était plus responsable de la structure globale. Ceci dit, il y a eu un abandon de sujet, puisque dans la version qui avait été demandée à McQuarrie au début, il était question que Tom Cruise soit un peu en retrait.
Il devait à peine apparaître dans la version initiale.
Alors qu'effectivement, là, il y a une réécriture complète, puisque le film est vraiment censé, de ce que j'ai compris, boucler une boucle, on va dire, qui a été démarrée avec le premier, et avec un parallèle très appuyé avec la carrière de Tom Cruise lui-même, mais ça, peut-être qu'on va en parler.
Ça, vous allez en parler, parce que moi, je le vois pas, en fait, ce truc-là. Alors, on peut le voir, en fait, si on veut, mais en fait, pour moi, le problème de ce film-là, c'est que c'est pas un film sur son sujet, c'est-à-dire les Top Gun, on va dire, c'est un film sur Top Gun, l'original, le film original, quoi. Et c'est mon premier problème majeur, en fait, c'est-à-dire que, bon, moi, je suis un gros, gros fan de Tony Scott, les gens qui nous suivent sont censés le savoir, en fait, donc voilà, mais c'est vrai que je suis comme Rafik, j'ai jamais compris l'engouement autour de Top Gun, c'est-à-dire que, pour tout dire, je préfère même Jour de tonnerre, c'est pour dire à quel point, voilà, quoi.
T'es un pervers.
Hein ?
T'es un pervers.
Ouais, mais parce que je trouve que ça ressemble un peu plus à un film de Tony Scott, en vrai. Alors, c'est méchant ce que je vais dire, parce que, c'est en fait, s'il y a bien quelque chose que Top Gun Maverick retient, c'est justement l'esthétique de Tony Scott, et à mon sens, c'est vrai qu'on peut pas lui enlever, c'est-à-dire tu regardes, il avait fait une pub, en fait, Tony Scott, pour Saab, où il avait, d'ailleurs c'est la pub qui lui a permis d'avoir le poste sur Top Gun, où il filmait des jets. Alors tu sais, Bruckheimer et Simpson à l'époque, très bas du front, c'est qui a filmé des jets? Ok, donc il y en a pas beaucoup, donc on va aller chercher le mec qui a filmé des jets. C'est Tony Scott, il a fait une pub, on va le chercher, on le prend, quoi. Et en gros,
elle était sexy, sa pub.
Oui. En fait, il y a des images, en fait, qui sont frappantes, en fait, dans Top Gun, qu'on le veuille ou non, en fait, c'est-à-dire qu'on s'en rappelle. On s'en rappelle, c'est-à-dire les couchers de soleil, les machins.
Les reflets sur les carlingues.
Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que le film, il passe déjà les 5 premières minutes. Enfin, quand tu regardes les 5 premières minutes de Top Gun Maverick, moi, c'est déjà la note d'intention, pour moi, elle est problématique. C'est-à-dire que tu regardes les 5 premières minutes de Top Gun Maverick, c'est les 5 premières minutes de Top Gun refaites aujourd'hui.
Chanson, quoi.
C'est-à-dire chanson, explication de ce que c'est le Top Gun. Des mecs sur un porte-avions en train de danser comme des cons, là, comme dans le premier, et en fait au bout d'un an tu fais non mais vraiment vous en êtes vraiment là, en fait, c'est-à-dire il faut vraiment que vous, dès le début, vous disiez aux gens t'inquiète pas, ça va bien se passer, en fait tu vas retrouver tes 15 ans. Moi, ça, c'est un problème pour moi, parce
Alors, est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi toute une frange du public qui va voir ce film, qui n'a pas vu le premier parce que il n'était pas né en 86?
À part le panneau d'explication, tu pouvais tout refaire, c'est-à-dire à part le panneau d'explication éventuellement pour expliquer ce que c'est le Top Gun. Tu vois, tu pouvais tout refaire. C'est pas une excuse, ça, pour moi. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est une vraie excuse pour dire aux gens « Top Gun, c'était ça. » Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un film sur ça. Sur cette époque, sur cette nostalgie. Moi, le problème avec le Top Gun original, mais je vais même aller plus loin, c'est même pas l'aspect aristocratique, en fait, que le film peut avoir. En fait, c'est que c'est... Moi, c'est très rare, hein, que je... Comment dire... que j'attaque des films, en fait, sur leur fond. Mais pour moi, en fait, rendre sexy, en fait, le fait d'aller faire la guerre comme ça, en fait, d'être des pilotes dans le truc et de balancer des bombes sur les populations. Je trouve ça absolument abject. Et en fait, voilà, enfin, c'est, on parle pas de Rambo, parce que même dans Rambo, en fait, c'est un personnage à part qui se fait larguer par son propre pays, etc., etc. On parle vraiment, parce que tu vois, tout ce qu'on reprochait à un mec comme Rambo d'être un va-t-en-guerre, hein, tout ce que tu veux, dans les années 80, Top Gun le faisait et on leur a pas tellement reproché. C'est ça qui est assez hallucinant, quoi. C'est, en fait, c'est quand même. À la mesure, Top Gun, c'est quand même un truc qui a fait en sorte que t'es, je sais pas combien de gosses qui sont allés s'engager dans l'armée derrière en étant persuadés. Et Tony Scott le dit d'ailleurs lui-même hein, dans les making of d'époque et tout ça, etc. Enfin, pas d'époque, mais de après, où il dit ouais, je pense qu'il y a plein de gamins qui m'en veulent parce qu'ils se retrouvent dans un espèce de porte-avions perdu au milieu de l'océan Indien à récurer des chiottes alors qu'ils sont persuadés à cause de mon film en fait qu'ils vont être des pilotes sexy et tout ça, etc., etc. Tu vois. Bon, c'est comme ça. Le truc, c'est que voilà, moi, je pense que déjà, ça, c'est un des premiers trucs qui fait que c'est un film que j'ai pas envie de revoir. C'est un film, voilà. Ensuite, c'est un film cinématographiquement, bon, finalement assez limité. Hein. Premier Top Gun, ça raconte pas grand-chose. Je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire ça, quoi. Et fondamentalement, justement, mon problème avec Top Gun Maverick, c'est que bah, ça raconte pas plus grand-chose que l'original, quoi. C'est-à-dire, c'est ça mon souci. Alors peut-être que effectivement, on est arrivé à un tel niveau de médiocrité dans la narration que le fait qu'on comprenne ce qui se passe là-dedans, c'est ça va. En fait, on est dans les clous, quoi. Mmh. Mais pour moi, en fait, je vois même pas en quoi c'est un film sur Tom Cruise, si tu veux, et sur sa carrière, parce que
comme l'a dit Clémence en intro, c'est le film qui en a vraiment fait une star, donc il a révélé au monde. Encore une fois, c'était là-haut parmi les meilleurs, et le mec avec ce film-là se retrouve littéralement là-haut parmi les meilleurs.
Non mais ça, tu parles de ce qui s'est passé après.
Avec les moyens de prendre sa carrière en main, il l'a clairement prise. On l'a souvent répété dans nos podcasts, mais il faut quand même regarder ce que Tom Cruise s'est pris comme réalisateur sur sa carrière. Il n'y a aucun autre comédien ou même comédienne américaine qui ait bossé avec autant de cinéastes de prestige. Donc il a aussi compris qu'une carrière de comédien, ça se fabriquait.
Ouais, mais là, c'est plus le cas maintenant.
Et tout ça, voilà. Et aujourd'hui, on en arrive à un point, comme on l'a dit par rapport à ce leak, où il a le sentiment d'une responsabilité vis-à-vis de l'industrie et vis-à-vis de l'avenir de cette industrie. Et Top Gun, c'est un film, le Maverick, c'est un film sur la transmission. C'est comment t'as pu être le meilleur de tous dans ton égoïsme aristocratique, mais qu'à un moment donné, il faut que tu lâches l'affaire et que tu donnes aux autres. Ça va pas chercher bien loin, mais c'est là, tu vois, c'est ce que le film raconte.
Il dit, you have to let go.
C'est ça le fameux let go auquel le film
Le film en soi le film en soi en fait finalement vu que c'est une repompe totale du premier à trois trucs, enfin, je veux dire,
c'est un film de bon élève,
parce que j'ai parlé des cinq premières minutes, hein, excuse-moi
Julien, c'est un film de bon élève et pour moi c'est dans la logique de ce que le film raconte. Ouais,
alors le truc, si tu veux, c'est que c'est un film de bon élève, faut s'entendre, moi ça fait maintenant 15 ans facile hein, que comment dire, la nostalgie, c'est le fuel de toutes ces suites en fait tardives, quoi. Que c'est le seul moyen en fait de relancer la machine, tu vois, pour se poser des questions. Sauf que le truc, c'est que en fait, je sais pas moi, l'aviation américaine, tout ça, ça a changé en fait depuis 35 ans. Il y a tout un sujet en fait à avoir autour de ça et à se poser des questions qui est là par exemple pour le coup mais complètement balayé.
Alors
ça
si
ça
justement, un sujet, c'est ouais. Un des sujets qui est abordé au début et qui est posé de manière pour le coup très assumée, qui est on sait qu'on va être remplacé à terme par des drones et que les pilotes n'auront plus lieu d'être. Mais moi, je suis le dernier représentant de ces pilotes d'élite. Et,
c'est bazardé parce qu'en fait, on ne voit pas un seul drone dans le film.
Moi, je trouve pas ça démontre que le facteur humain est essentiel.
Voilà, moi, je ne trouve pas ça bazardé parce qu'en fait, on a globalement, à mon sens, un film de plus qu'un film sur l'Académie Top Gun. On a un film de personnages. Fondamentalement, on voit en creux le portrait de Pete Mitchell. Pete Mitchell était une figure assez évanescente dans le premier Top Gun. C'était juste un beau gosse, machin, etc.
Bon, là, on peut dire transparent. Voilà. Évanescent, c'est encore joli, hein. Transparent, quoi.
Voilà. Là, t'as vraiment. On voit un personnage qui a eu ses doutes, qui a eu des choix aussi qui sont très forts, le choix de ne pas avoir de famille, le choix de rester un solitaire, et un gars qui va se remettre en cause, un gars qui ne va pas assez se remettre en cause, un gars qui va s'entêter à être une figure de, rébellion, parce que c'est une thématique que Tom Cruise aime bien, il aime bien être l'homme contre le système. Et donc, j'ai un film de personnages. Donc, quand on me dit la marine a évolué en 35 ans, tu as raison. Mais en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, pour moi, à mon sens, c'est la marine a beau avoir évolué, rien ne remplacera jamais l'homme.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non mais d'accord, mais en fait, le truc, c'est que le film arrive 10 ans après ça, excuse-moi, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on le sait maintenant que les drones, en fait, c'est ce qui existe, tu vois, dans le principe, tu vois, les gars, ils se font avec ça. Donc le problème, en fait, là-dedans, c'est que c'est même pas que le film, il a 4 ans de retard par rapport à sa date de sortie, hein. C'est qu'en fait, il a 10 ans de retard sur le sujet, juste pour rester sur, en gros, si tu veux, des séquences, globalement, qui sont les séquences qu'on te refait. Je veux dire, s'il y a une scène, en fait, qui a été oubliée de Top Gun, je veux dire, il faudrait me la dire laquelle, parce qu'ils te font la scène où ils chantent Great Balls of Fire, ils te font la scène où ils jouent du basket ou du football américain, je sais pas quoi, sur la plage, ils te refont tout, quoi, c'est-à-dire t'as tous les plans, en fait, les mêmes, alors ça c'est pareil, on en a pas du tout parlé, mais moi je veux bien, en fait, que les gars ils aient fait leur cascade, qu'ils soient tous montés dans des avions, dans des F-18, qu'ils aient monté, etc., etc., mais c'est, globalement, puisqu'ils sont tributaires de l'original, il y a finalement, fondamentalement, peu de moments, et c'était un des soucis aussi de l'original, hein. C'est-à-dire que les dogfights ou les trucs comme ça, c'était pas très impressionnant, en fait. Et pour cause, c'est un film, en fait, qui a été tourné, faut le préciser, ça, l'original, au kilométrage. C'est-à-dire que c'est ce que faisait Tony Scott, en fait, il tournait, et en fait, ça a été rattrapé au montage à mort, et tout le monde le dit, hein. Je veux dire, ils sont tous là en train de dire, on a sauvé le film au montage, parce qu'il était imbitable. Et du coup, comme ils reprennent cette esthétique-là...
Tu dis beaucoup de choses, hein.
On a plus de 800 heures de rush.
Voilà, non mais et en fait c'est shooté pareil. Du coup, en fait, que les mecs ils soient au sol et que la caméra elle fasse des tournis ou que, en fait, voilà, moi je trouve qu'il y a très très peu de distinction. Je trouve pas ça particulièrement spectaculaire, tu vois.
T'as quand même une sensation de présence, notamment pour tous ces plans où ils ont, comment dire, où ils ont mis leur caméra 6K à l'intérieur des cockpits. Enfin, il y a des moments où tu sens la pression sur le pilote, etc. On n'est pas dans un Star Wars épisode 3 où t'as l'impression que les mecs ils skurent le nez quand ils sont dans des vaisseaux spatiaux. Et le filmage, globalement, quand je parlais de bon élève, mais ça c'est Kosinski, hein, c'est le gars qui a été effectivement plus ou moins parrainé et chapeauté par David Fincher quand il a été lancé sur le projet Tron Legacy, mais parce que justement il avait cette espèce d'aisance à faire des plans équilibré sur le plan architectural. J'allais dire beau, mais en fait non, ils sont pas beaux, ils sont juste équilibrés, parce qu'il comprend l'architecture d'un plan, et du coup il sait remplir un cadre.
Moi,
dans le cinémascope.
Comment ? Moi je vais dire beau.
Toi tu trouves ça beau,
oui.
Ouais. Oblivion, tu trouvais ça vraiment
beau ?
Bon, pour moi c'est fonctionnel, mais c'est proprement fait. Si je lui reconnais quelque chose, c'est que ce goût pour la construction architecturale fait qu'il fait partie de ces réalisateurs qui ne font pas bouger inutilement la caméra quand ils filment, par exemple, des scènes de dialogue. La caméra est fixe dans le film. Ça, c'est aussi, il faut rappeler pourquoi on s'est mis à faire bouger la caméra sur les scènes de dialogue dans les films hollywoodiens depuis 20 ans. C'est simplement parce que le simple fait que l'image bouge sensiblement envoie au cerveau un signal comme quoi il se passe quelque chose. Et du coup, on te donne l'impression qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est ne pas du tout faire confiance ni aux images, ni à l'intelligence du public, quoi.
Parce qu'il y a des tonnes de films où la caméra est
parce que du coup sur un champ contre champ en plan fixe,
je sais que tu vois plus des Marvel, mais
sur un champ contre champ en plan fixe, tu n'as plus d'autre choix que de te focaliser sur la gueule du comédien. C'est le seul truc en mouvement, et du coup c'est le seul truc d'intérêt dans le plan, ce qui veut dire que du coup il faut que tes comédiens ils expriment quelque chose. Enfin, tu vois, ça entraîne une mécanique de mise en scène qui fait partie de ce qui s'est perdu. Parce que si aujourd'hui on shoot aussi facilement des...
Raph, les champs contre champs en comédien, ça s'est pas perdu aussi dans le cinéma américain. Je veux dire, encore une fois, dans les Marvel, t'en as des tonnes, tu vois, c'est pas...
Oui, mais sauf que le point focal n'est plus l'expression du comédien. Mais bon...
Bon, d'accord, admettons, mais enfin, tu veux, en fait, moi j'ai une question pour vous, parce qu'en fait, il y a ce truc que tout le monde dit...
C'est juste ce côté bon élève, en fait, c'est que... Ouais. Si Tony Scott avait pu faire ce film, avait décidé pour le coup de ne pas se suicider, qu'est-ce que lui en aurait fait ? Est-ce que lui se serait servi de ce film comme justement une façon de résoudre un truc qu'il avait commencé dans son style avec Top Gun, qu'il a très clairement révolutionné et amélioré dans les années 90, pour en arriver à cette espèce de, d'abstraction qui était Man on Fire, etc. quoi. Et du coup, comment il aurait rejoint ce... Bon, il n'y a pas du tout ça. Il y a une déférence totale envers dans le look du premier. Il te refilme les mêmes travelling de Tom Cruise à moto qui arrive dans le hangar avec le soleil au même endroit, sans prendre jamais de risque visuel.
C'est ce que je dis quand je dis que c'est un film sur Top Gun.
Ce qui est d'autant plus dommage qu'il a Claudio Miranda à la photo, quoi, qui a prouvé avec Life of Pi ou même Benjamin Button, enfin que le mec pouvait prendre des risques techniquement parlant, quoi. Donc ça, c'est fonctionnel, ça fait le boulot. On a vu le film en Dolby Cinema, donc c'est Dolby très Vision. Impressionnant en Dolby Vision. C'est voilà, ça, tu sens que ça a été tourné avec les toutes dernières technologies les plus au point. Je trouve que le boulot du monteur, là, c'est le monteur de Matthew Vaughan, qui est le mec qui a fait les Kick-Ass et autres. Il s'est plutôt bien démerdé pour rendre les scènes de dogfight vaguement compréhensibles, alors que moi j'avais du mal sur le premier. Je comprenais
ouais,
pas
moi, moi, je, moi je dirais que les seuls rajouts, c'est que par exemple sur un film comme ça, t'as un moment donné où il se retrouve au sol. Effectivement, donc à un moment donné, en fait, t'as des enjeux, on va dire, sur les pilotes, et t'as du coup, en fait, si tu veux, ça te casse la mise en scène obligatoire de Tony Scott, quoi. Mais enfin, disons, au kilométrage, j'ai envie de dire, au cut. Mais le truc, en fait, c'est que c'est très rare, en fait. C'est un moment, c'est 5 minutes dans le film, en fait. En gros, c'est un moment où tu te retrouves dans un Mission Impossible au lieu d'être dans Top Gun. Mais peu importe, enfin, moi, c'est pas ça le problème. C'est que j'aurais aimé que le film il casse ça plusieurs fois, en fait, dans le truc. Et le souci, c'est que moi, c'est la question que j'allais vous poser. C'est je vois partout, pas forcément vous, hein, automatiquement, mais peut-être que vous, ça a marché. Ce truc de c'est un film émouvant. Et moi, ça me dépasse. Alors, si on parle de la scène de Val Kilmer, moi, personnellement, je trouve ça assez...
ça t'a énervé.
Bah, c'est pas que ça m'a énervé. C'est moi, encore une fois, j'ai pas d'attache, en fait, à Top Gun. Vraiment. C'est-à-dire que, en fait, le truc, c'est que c'est un film que j'ai vu qu'une fois. J'ai revu plein de scènes comme tout le monde, en fait, voilà, mais je l'ai vu qu'une fois en entier. C'est un film qui ne m'intéresse pas. C'est un film, y compris dans mon amour, encore une fois, de Tony Scott, quoi. Mais donc, je m'en fous, en fait, du personnage de comment il s'appelle, de Val Kilmer.
Iceman.
Je m'en fiche, en fait, de ce personnage. J'ai pas d'attachement, par contre, particulier. Oui, le par contre, le truc que je trouve.
Par rapport au personnage, mais... encore une fois, c'est par rapport à leur carrière respective. Je veux dire, Val Kilmer, il est arrivé ce qui lui est arrivé. Et comment t'intègres ça au récit? Et je pense que la façon avec laquelle ils l'ont intégré, elle est ingénieuse, quoi.
Moi, je la trouve ingénieuse. Et il y a un moment que je trouve assez joli, qui est, étant donné que Val Kilmer a réellement des vrais problèmes pour parler dans la vie à cause de son cancer de la gorge, donc ces quelques dialogues, si vous n'avez pas vu le film, d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? Allez le voir et ensuite revenez nous écouter.
Il n'y a pas grand-chose à spoiler dans ce film.
Il écrit « It's time to let go ». Et le fait est que vu que c'est un dialogue où il y en a un qui parle et l'autre qui écrit pour lui répondre, en fait le it's time to let go reste à l'écran et ils font plusieurs allers-retours dessus, pas forcément en faisant un gros plan mais simplement en l'incluant dans le cadre, et en faisant ça en fait ils créent un dialogue tout simplement sans dialogue. Je trouve que c'est une jolie idée de Cinoche, puisque fondamentalement t'as Pete Mitchell, donc Maverick, qui déroule ce qu'il a sur le cœur, et l'autre ne dit rien puisqu'il peut pas parler, et il a juste dans son cadre it's time to let go, et au bout de 2 minutes de dialogue il fait I know, it's time to let go. Et tu fais, voilà, c'est une vraie idée de Cinoche qui a intégré la maladie de Val Kilmer pour en faire quelque chose de Cinoche. Moi, je trouve que c'est super, ça, comme idée.
Je sais pas, je trouve ça hyper morbide, en fait, ce qu'ils en font.
C'est pas morbide. C'est pas morbide. C'est juste que tu sais que le public qui est en salle, l'essentiel du public qui est en salle, le sait. T'as peut-être des gens qui savent pas que Val Kilmer est malade, mais t'as des gens qui le savent et qui vont effectivement, peut-être ou pas, j'en sais rien, être émus par le simple fait que... Il sait que c'est peut-être son dernier rôle de toute sa vie dans un film important. Il a déjà accepté cette idée. Lui, pour le coup, let go et c'est acquis. Mais c'est acquis parce que la vie l'a obligé à l'acquérir. Là où Tom Cruise est encore obsédé par l'idée de maintenir le cinéma sur sa trajectoire, etc. Et du coup, ça a du mal à transmettre et à générer la nouvelle génération. Donc, tout ça me semble honnête, en fait. J'ai pas l'impression.
Je trouve que ça fait partie de cette espèce de logique un peu factice d'aller chercher en fait tous les éléments du film original pour apparemment les intégrer, sauf quand ils ont finalement très peu d'intérêt. Bah, par exemple, si tu veux, quand tu te poses cette question, ils en parlent, ils le détournent au bout d'une phrase. C'est le personnage de la mère de Miles Teller, enfin de son personnage qui est Meg Ryan. On en parlait en antenne avec Julien Charpentier.
Il y a de nombreux personnages du Top Gun du premier qui sont cités, mais ils ne sont que deux finalement de comédiens à revenir dans leur propre rôle. sur la totalité du
casting. Mais en fait,
casting.
Si tu veux, chaque personnage, chacun des personnages représente quelque chose, en fait, si tu veux, qui est lié à l'original. C'est-à-dire, encore une fois, je veux dire, soyons honnêtes, ils ne sont pas allés chercher Kelly McGillis parce que Kelly McGillis, comme elle l'a dit elle-même, elle fait son âge. Donc en fait, ils peuvent pas mettre Tom Cruise avec une nana qui a 60 ans comme lui d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire, en fait, c'est tout le souci. Donc c'est pour ça que je parle d'un problème d'honnêteté. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est tout ce qui a une valeur pour eux nostalgique se retrouve là-dedans. Et du coup, moi, ce que je trouve un peu morbide dans la valeur nostalgique de l'emploi de Val Kilmer, qui pour moi n'est pas nécessaire. Alors après,
c'est lui qui a poussé aussi être intégré au cast.
Non, mais on sait très bien que ça se fait sur les réseaux sociaux, les films. On le sait. Le truc, si tu veux, c'est que tu balances une idée, les fans disent si, il faut que ça y soit. Alors les autres font bon, bah merde, on le met. Tu vois, mais justement, c'est pour ça que je parle qu'il y a un problème d'honnêteté.
Franchement,
en fait.
ça aurait pu être beaucoup plus maladroit.
Et ce sujet, moi, je veux bien, en fait, ce sujet dont vous parlez, mais en fait, à la fin, c'est quand même Tom Cruise qui prend l'avion et qui y va et qui nique tout le monde, tu vois. Donc bon, au final, si tu veux, c'est quand même encore, on est encore, enfin, le let go, il l'a pas let go, quoi. Donc,
pour ça, pour moi, quand je dis que c'est un film de personnage, je le pense sincèrement. Oui, d'accord, il y a un personnage qui a beaucoup plus d'importance que les autres, mais bon, tu vas pas voir un Tom Cruise en espérant qu'il va laisser beaucoup de place aux autres, sinon tu connais pas Tom Cruise. Mais si vous voulez, je vais faire une comparaison extrêmement hasardeuse sur un film que vous adorez tous. C'est la scène finale de Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Je vous avais prévenu avant. Où Harrison Ford récupère son chapeau au moment où le petit va le prendre. Moi, effectivement, oui, c'est un film sur la transmission, comme tu l'as dit, Rafik, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il prend son chapeau, Tom Cruise, et qu'il dit « Pas encore ».
Pas encore, oui.
Pas pour tout de suite. Ouais.
Pas pour tout de suite, je suis encore là, et le cinéma que je fais, je vais continuer à le défendre.
Ok, très bien. Donc voilà, moi en fait, je suis même pas. Le truc, c'est quand je regarde un film comme ça, je suis même pas particulièrement énervé par le film. Si le seul truc qui m'a énervé, il y a un seul truc qui m'a énervé, c'est le dédié à Tony Scott, ça m'a énervé. Mais là, ça m'a vraiment énervé parce que je veux dire, ouais, vous pouvez, bande de bâtards, hein, vu tout ce que vous prenez, quoi.
Mais pourquoi ça t'a énervé, au contraire?
Parce que en fait, les mecs,
c'est un bel hommage.
Non, c'est pas un bel hommage. Je trouve pas que c'est un bel hommage. Déjà, si tu devais faire un hommage, bon, après, ça c'est indépendamment du market, si tu veux, et de ce que ça demande. Tu vois, si tu devais faire un hommage à Tony Scott, j'ose espérer qu'en fait, il faut arrêter de se rappeler que c'est juste le réalisateur de Top Gun, quoi, parce que maintenant c'est ce qui restera, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que au-delà de ça, c'est-à-dire que encore une fois, je trouve pas, je vois pas, c'est-à-dire sans forcément parler de cynisme, hein, pour moi c'est un film qui est très calculé, très in control, quoi. Donc le problème, c'est que je veux dire, par exemple, ce mec, comment il s'appelle, Kosinski, j'ai cette anecdote qui est un peu marrante, je peux la raconter.
C'est une putain de production de Tom Cruise.
Oui, c'est pas faux.
Mais d'accord, mais en fait, si tu veux, en fait, encore une fois, sans vouloir, t'as parlé de tous les réalisateurs, en fait, que attends, Raph, t'as parlé de tous les réalisateurs, en fait, si tu veux, qui de prestige qu'il a et tout ça, etc., etc. Ça, c'est fini. C'est fini depuis 15 ans. Vraiment. C'est-à-dire, en gros, le dernier réalisateur prestigieux, peut-être, j'ai pas la liste exacte en tête, hein, de tous des réalisateurs avec lesquels il a tourné, c'est peut-être Michael Mann. Mm. Et globalement, je vais peut-être pas me faire des amis.
Il y a Spielberg,
il l'a fait avant. Il a fait Minority Report avant. Moi, je parle de dans l'ordre de trucs à
affecter. Et La Guerre des Mondes après.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le dernier réalisateur, ouais, en fait, a accroché à son listing, c'est un Michael Mann. Mm. Et en fait, en gros, depuis, c'est au-delà des Edward Zwick et des trucs comme ça, c'est Alex Kurtzman, c'est des mecs comme ça. Donc, à un moment donné, même si Tom Cruise essaye de survivre, et ça j'ai bien conscience, en fait, si tu veux, pour moi, les Missions Impossibles parlent beaucoup plus de sa carrière à lui et de manière beaucoup plus fine, même si je les aime pas tous, que ce film là pour moi, en fait, j'en reste vraiment sur ce truc là et sans encore une fois parler de cynisme, je parle d'un film en fait contrôlé, dans le sens où je veux dire, voilà, on n'a pas grand chose à dire de plus. Moi, ce que vous me dites sur le truc de Tom Cruise, etc., etc., et à partir du moment où le développement du personnage, finalement, il va pas beaucoup plus loin que ce que vous avez dicté en trois lignes, émotionnellement, c'est ça mon problème, je suis complètement resté en dehors.
Le pitch
de
ce film-là, de celui-ci, pas de l'original, mais de Maverick, c'est grosso merdo celui du maître de guerre. Sauf que le maître de guerre était
Rafik, tu sors.
Voilà, je le cite parce que c'est comparaison hasardeuse. Parce que par rapport à ce que le personnage de Tom Cruise est censé être dans le film, je pense que c'est ce que Stéphane attendait. On a un gars qui a passé toute sa vie à être le meilleur des meilleurs, mais au prix de sa vie privée, qui comprend pas qu'arrivé à un vieil âge, il y a plus rien qui l'attend derrière.
Moi, ce que j'attendais, je ne sais pas si j'attendais quelque chose de Top Gun Maverick, en toute honnêteté, oui. Hein, tu vois, je veux dire, surtout, encore une fois, voilà, ça fait partie de toutes ces problématiques de suite qui arrivent à une époque où elles devraient même plus arriver, en fait. Mais bon, il se trouve que on a trouvé le nouveau fuel pour le faire, c'est la nostalgie, quoi. C'est pour ça qu'on parle de legacy quel, quoi. Mais globalement, c'est une façon de faire. On l'a vu avec Scream en début d'année. On l'a vu avec des tonnes de films. En fait, c'est une Jurassic World, c'est ça aussi. C'est une façon, en fait, de reprendre les films, en fait, et de les refaire, en fait,
par le fuel. Sauf que Jurassic World ne prend pas en compte l'idée qu'il y a eu 20 ans ou 25 ans depuis Jurassic Park, là où Top Gun s'est inscrit dans le film qu'il y a eu toutes ces décennies qui les séparent.
Et ben moi j'ai pas justement cette impression là quand je regarde le film, parce que justement, encore une fois, je veux dire, la guerre c'est ce que c'est depuis en fait 35 ans, dans les années 80, à une époque on va dire où t'étais beaucoup moins au courant en fait des problématiques géopolitiques du monde, on va dire, qu'aujourd'hui. Tu faisais un film où t'étais en train de vendre un tract publicitaire, si tu veux.
Les dialogues entre d'un film à l'autre. Le personnage de Maverick qui dialogue avec le personnage de Top Gun. Il y a des aspects qui ont été abandonnés, je pense, à cause des développements sociétaux, et notamment l'homoérotisme du film original.
Moi, je pense que cet homoérotisme-là, c'est juste parce que ça a été vraiment remis en avant par un mec comme Tarantino.
Pas exactement, mais c'est devenu, ça fait partie aujourd'hui de l'ADN de Top Gun et de la façon avec laquelle les gens se le transmettent. Ça a été complètement balayé sur Maverick. Mais je pense aussi que c'était parce que c'était un terrain qui pouvait être glissant. En tout cas, tel que Tom Cruise le conçoit par rapport à la société dans laquelle on est.
Moi, je pense surtout que c'était un homoérotisme qui n'était pas forcément conscient à l'époque où il a été fait. Hein. C'est-à-dire, tu poses la question aux gens en fait, qui ont fait... Il y a un autre film... Petite anecdote à part, j'en ai parlé avec le réalisateur. Il y a un autre film qui s'appelle Commando.
Anecdote Commando.
Voilà, et dans Commando, en fait, si tu veux, t'as comment il s'appelle... L'homoérotisme est quand même assez flagrant, en fait, on va dire. Et en gros, quand j'en ai parlé avec Mark Lester, c'est lui le premier qui m'a dit, il y a des gens qui disent que c'est homoérotique, mais moi, je vois pas où. Et je l'ai regardé, et je lui ai fait, quand même, tu vois. Et en fait, je commence un peu...
Quand ils comparent leurs gros tuyaux
et je pense que c'est pareil. Je pense que peut-être que Tony Scott en avait vaguement conscience, ou que ça l'amusait, ou j'en sais rien, peu importe. Mais en fait, en gros, on parle d'une époque aussi, très spécifique, où tu t'habillais avec des trucs où même les hommes on voyait leur nombril, donc si tu veux, il n'y a pas de comment dire, c'était un truc qui voulait ça de l'époque, quoi. Et en fait les gens considéraient que c'était quand même hétéro, et enfin voilà, c'est complètement contextuel, et en plus j'ai envie de dire cosmétique, en fait,
mais
tu vois.
D'accord, mais qu'ils en étaient conscients ou pas, de toute façon c'est rentré dans l'ADN du film et dans la façon avec laquelle les gens aujourd'hui en parlent du film original.
Les cinéphiles, je pense,
ils ont choisi, pour le coup, par rapport à cette question de la nostalgie, de ne pas du tout faire référence à ça. C'est zappé. Je constate, quoi. Donc il y a des choix qui ont été faits. Les mecs se sont pas juste dit on va refaire Top Gun. Moi je l'ai pas du tout vécu comme une tentative de refaire artificiellement la scène que vous avez aimée. Effectivement il y a des rappels. Tu l'as cité, la scène de sport d'équipe sur la plage, c'est clairement un.
En fait c'est surtout ce qui est terrible, c'est que c'est des rappels. Moi encore une fois qui n'est pas revu en fait Top Gun depuis très longtemps. Je voulais me le revoir là avant qu'on enregistre, finalement j'ai pas eu le temps. Je me rappelle de ces scènes dans l'original. Et donc en fait c'est là où tu te dis, ah ouais d'accord, bon, c'est-à-dire que donc l'original a marqué quelque part d'une manière ou d'une autre. Mais en plus, en fait, si tu veux, on te l'a refait alors que c'est complètement... Enfin, tu vois, la scène où il chante Great Balls of Fire, un truc, ça n'a littéralement aucun sens structurel, narratif.
Bah quand même.
Il s'inscrit comme le fils de son père, et c'est quand même un des enjeux majeurs du film.
Son père n'existe pas en tant que personnage quasiment. Non, en fait, c'est quasiment rien dans l'original. Le seul truc qu'ils ont à prendre, c'est en fait, c'est soit sa mort, soit le fait qu'il chantait Great Balls of Fire. Enfin, je veux dire, à un moment donné,
pour le coup, c'est du déni, parce que l'utilisation de Great Balls of Fire dans cette scène-là, il n'est que narratif. Je veux dire, c'est ce qui introduit le spectateur à cette problématique.
Parce
que c'est le moment où Tom Cruise est à l'extérieur du bar, voit le truc, se souvient, et du coup tu dis, ah oui, donc il y a un problème avec ce mec-là spécifiquement, pourquoi ? Ah oui, d'accord.
Non mais d'accord,
le comédien...
Que toi tu sois censé le comprendre, c'est une chose, tu vois, ok ? Mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est qu'un gosse qui joue en fait la même chanson que son père 30 ans après, ou je sais pas, enfin ça n'a aucun sens, c'est ça que je veux dire.
Il a pris des leçons de piano pendant 5 semaines pour apprendre à le jouer.
Mais c'est formidable. Mais c'est incroyable. Mais en fait ce que vous êtes en train de me dire, c'est, mais vous avez raison, j'ai changé d'avis, c'est un chef-d'œuvre. Il a pris 5 semaines de leçons de piano, 15 semaines
encore
de
une fois, mais c'est pas ça, c'est pour ça qu'on parle de dialogue, c'est-à-dire que effectivement ils reprennent une séquence,
c'est ce que
du film original, mais la reprennent.
Non, c'est une suite.
Ils la reprennent pour
enfin
pour en modifier le sens. Donc c'est pas, tu peux pas dire que c'est juste reprendre la même scène.
C'est pas une suite, c'est une legacy quel en fait. Si tu veux, en gros, encore une fois, c'est, je veux dire, en fait, une suite, c'est un prolongement en fait. Et moi, je suis désolé, mais le problème, si tu veux, c'est que, c'est, enfin bon, on va pas faire le truc vous, on n'est pas d'accord, c'est tout. Mais le truc, c'est que pour moi, je veux dire, que le personnage ait évolué par rapport aux 35 ans qui sont passés, effectivement, c'est tributaire de ce qui est devenu Tom Cruise par rapport à, dans sa carrière, par rapport à ce qu'il était à l'époque. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais globalement, en fait, le personnage, moi, j'ai pas l'impression qu'il ait particulièrement évolué, justement. Et surtout, j'ai pas l'impression que la vision qu'ils ont de leur sujet, et c'est ça mon problème principal avec cette suite, puisqu'en fait, t'as potentiellement le moyen de faire justement une suite à Top Gun, vu comment ça s'est passé, c'était de faire ça. Et ils le font pas. Ils le font parce qu'ils font un sujet. Leur sujet, c'est Top Gun. Leur sujet, c'est le film d'il y a 35 ans. Ok, très bien. Moi, je constate que ça suffit pour beaucoup de gens.
C'est la transmission.
Voilà, je constate que ça suffit pour beaucoup de gens. Non, mais d'accord. Et que, en gros, si tu veux, ce qui m'étonne, en fait, c'est d'entendre parler d'un film super émouvant, d'entendre parler d'un truc, etc., etc., et de me dire, ce film-là, vous l'aimiez pas il y a 35 ans, qu'est-ce qui se passe, en fait, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, la critique, de manière générale, elle a chié sur ce film-là. C'était un
peu film que la critique était... d'aujourd'hui, elle est faite de gens qui avaient 12 ans quand
oui, quand mais bon, enfin, c'est pareil, tu vois. Ils ont un peu de discernement, c'est possible aussi.
Un autre rapport.
Enfin, je sais pas. Ça aurait été la suite de Cobra, je dis pas.
Mais sur la question de la transmission, par contre, oui, il y a un angle mort qui est le fait qu'à l'exception de deux personnages... celui dont on parlait à l'instant, moi j'ai pas retenu leur matricule.
Le fils qui s'appelle Rooster.
C'est
Rooster,
ça.
Rooster, hein. Ouais. Fils de Goose.
Et l'autre, qui a vaguement, et l'autre c'est Hangman. Voilà, c'est ouais. les deux seuls qui ont un peu de consistance. Mais on a la meuf, la Phoenix, et l'autre.
Fanboy.
Bob.
Ouais, Bob, c'est ça, ouais. Qui servent concrètement
ouais.
à rien du
alors,
tout.
Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus. J'ai trouvé personnellement que l'image du film était plutôt agréable, plutôt belle, mais que en termes de personnages, alors c'est un film de personnages, c'est un film d'un personnage. Il porte très bien son titre, hein, c'est Top Gun Maverick,
oui, bah
et
oui,
ça
c'est,
ne parle
c'est le titre.
Que de Maverick. Et je trouve que pour une histoire de transmission, effectivement, le personnage de Goose reste très peu détaillé.
Le fils de Goose,
Rooster reste très peu. On n'en sait pas grand chose sur lui, à part qu'il est devenu pilote comme papa.
Il a perdu son papa.
Et c'est vrai que les autres, les jeunes cadets, moi j'aurais bien aimé les connaître un petit peu plus. Parce que finalement, ils sont dépeints, on n'a même pas des grands archétypes.
Non, mais c'est ça, il n'y a pas vraiment d'évolution dans leur personnage.
Je trouve que ça aurait été appréciable.
Bob, par exemple, est un grand archétype. Hein. C'est-à-dire que tu vois tout de suite le type de personnage un peu mal dans ses baskets qui va tout à fait.
Alors, si tu le vois, mais c'est vraiment pas travaillé suffisamment et je trouvais ça dommage parce qu'il y avait une vraie belle matière pour ça.
La jeune fille Phoenix qui arrive dès le départ très sûre d'elle, qui domine clairement par les vannes et tout ça, les autres, sa façon de dégager le Hangman, elle l'appelle, elle lui donne un autre surnom. Voilà. Et je m'attendais à ce que ce personnage-là soit fragilisé. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle est arrivée en mode je vous écrase tous et qu'il y arrive quelque chose qui, à un moment donné, allait la faire douter d'elle-même. Que dalle, quoi. Elle est fonctionnelle pendant tout le reste du temps. Elle fait des trucs très bien. Bon, très bien.
Moi, globalement, je pense qu'on peut pas sortir de l'ADN de Top Gun. Encore une fois, c'était les mêmes problèmes dans Top Gun. Hein. C'est-à-dire, dans Top Gun, c'était pas des persos hyper détaillés. Hein. C'était quand même des gros. D'ailleurs, les mecs, encore une fois, tu te dis, ça s'appelle Pete Mitchell. Je fais, ah, pour moi, c'est Maverick. Je me rappelle même pas son nom. Tu vois. Et le truc, si tu veux, c'est que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça fait partie, encore une fois, au cœur du projet aussi là-dedans. C'est-à-dire, tu peux pas faire. Enfin, soit en fait, tu décides de casser ce qu'est Top Gun et en fait de faire une vraie suite. C'est-à-dire vraiment, ce que moi j'appellerais une vraie suite, c'est-à-dire vraiment tu es dans la continuité, dans le sujet, dans le machin. Bon les gars, il y a 35 ans on a fait Top Gun de cette manière-là, maintenant on va le faire comme ça parce qu'en fait on est en 2022, tu vois. Soit en fait si tu veux, tu fais bon bah en fait en gros on est dans Top Gun, il faut qu'on reste sur ce que les gens attendent du truc, etc. etc. Et effectivement, Julien a son compte en fait sur les personnages. Moi, peut-être, je veux bien vous concéder un tout petit peu plus que dans l'original, mais en fait, pas beaucoup plus, quoi, parce que peut-être qu'effectivement, le public est devenu un tout petit peu plus savant, en fait, si tu veux, sur une attente, en fait, de caractérisation, quoi. Mais globalement, ça pisse pas loin, enfin, faut être honnête. Et moi, du coup, c'est là où, en fait, je émotionnellement, à part la nostalgie de voir potentiellement ce qui ne fonctionne pas sur moi, hein, en l'occurrence, Tom Cruise avec Val Kilmer, le reste, voilà.
Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait un personnage qui était intéressant, et c'est d'ailleurs étonnant parce qu'il n'est pas dans le premier, c'est le personnage de Penny, le love interest de Maverick. Ouais. J'ai trouvé que c'est Jennifer Connelly l'incarnait bien, au point que je me suis demandé, mais elle était dans le premier ?
Oui, non. Effectivement, on peut avoir ce doute. Mais moi, je sais que... Bon, après, c'est...
Déjà, elle avait 14 ans dans le premier, donc à l'époque du premier.
Oui, quand on fait le calcul. Ouais.
Mais c'est vrai que Kelly McGillis, dans le film original, elle avait quand même plus ou moins la charge d'intégrer le spectateur au récit. C'était quand même un peu elle que tu suivais, parce que c'était elle qui était en observatrice. Donc elle n'était pas juste un love interest, elle avait une fonction dans là où Jennifer Connelly elle est presque là pour rappeler tout ce à quoi le personnage de Maverick a évité toute sa vie en fait. C'est elle, mais c'est toutes les femmes qu'il a laissées sur le côté.
La vie qu'il aurait pu avoir.
C'est les vies qu'il aurait pu avoir.
Mais je trouve que ce personnage-là, je le trouve particulièrement bien écrit.
Il y a un moment. Pour le coup cinégénique, c'est sa façon à elle de lui signifier qu'il a le droit de rentrer dans sa vie.
Moi j'ai trouvé que c'était un très joli moment aussi.
Quand elle laisse la porte ouverte dans sa maison.
Mais j'aime aussi, ils nous ont évité la scène de sexe sur fond de Take My Breath Away, donc tu vois, ils n'ont pas tout refait. Et parfois,
à un moment donné, ils ont vu, comment il s'appelait ce film, MacGruber, là, les mecs ils se foutent de la gueule de ça. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit, on
parle de Toxicrate.
Je détestais cette chanson.
Mais globalement, la scène d'après sur le. D'après l'amour où ils discutent tous les deux, je trouve aussi que c'est une jolie scène de personnage où elle l'aide à trouver ce qui ne va pas dans sa relation
avec lui. Et en fait, ils font Jerry Maguire, Harry Lloyd aussi, tu vois, parce que ça ressemble un peu à ça, hein, quand même. Hein, tu vois.
T'es pénible.
Moi, ça m'a fait penser à ça. Non, mais je sais même pas une qualité. Je parle pas de qualité. J'aime pas trop Jerry Maguire, mais je pensais pas à ça. Je me suis vraiment dit, tiens, on a l'impression qu'en fait, ces petits moments-là, en fait, il les a empruntés à Jerry Maguire, tu vois. Parce que les films de Tom Cruise, quand même, ils se ressemblent un peu tous, il faut être honnête, tu vois.
Mais bon.
Donc voilà, il faut dire que ça donne ces petits moments-là donnent un minimum, encore une fois, un minimum de consistance. Je suis pas ressorti bouleversé par
faire du rasé-cour.
Mais non, parce que c'est exactement ce que tu décris. Ce que tu décris de Tom Gunn. Moi, c'est ce que je vis en m'attendant les Jurassic World.
Ouais, ça serait peut-être moins un problème si en fait Tom Gunn il n'était pas. Hein,
tu les mates.
Les Jurassic World, quand t'as un Bayona au générique, je vais carrément les voir en salle, mec.
Ouais. Le truc, c'est que moi, quand c'est la 15e sequel qui fait ça, en fait, au bout d'un moment, en fait, justement.
On peut pas t'enlever le fait, effectivement, qu'il y a le côté cahier des charges qui fait que tu vas retrouver des scènes comme ça, comme tu l'as très bien expliqué.
Et notes d'intention, surtout, moi, c'est ça le truc, c'est qu'au final, ça devient des notes d'intention. Donc, c'est ça un peu le souci. Même Tom Cruise, tu vois, quand l'autre, il dit, mais pourquoi vous êtes en train de faire. Du football américain sur le truc, il fait il regarde comme ça, il a un sourire un peu gêné, il fait je sais pas, mais il fallait le faire, tu vois. Il faut qu'il se détende,
il explique que c'est comme ça qu'on forme une équipe.
Ah oui, voilà.
Pour le coup, la première scène de baseball, pour le coup, c'est une réponse. La première scène de volleyball dans le premier était une scène d'adversaires, de gens qui veulent montrer leur supériorité. C'était tout l'enjeu de la scène au-delà de son homoérotisme. Et là, la scène est refaite, mais cette fois-ci avec un angle différent, qui a une variation sur le même thème, littéralement, en disant cette fois-ci c'est la création d'une équipe. Donc il y a vraiment une réponse d'un film à l'autre.
Mais c'est ce que je dis, c'est un film sur Top Gun.
Je
l'ai dit 50 fois. Je pense qu'on peut couper. On va finir les fonds de verre là.
Bon, en attendant, pour ceux qui l'auraient pas capté, tout ce podcast ne servait qu'à vous vendre le maître de guerre,
Heartbreak Ridge
de Clint Eastwood. Clint Eastwood. Non, mais pas par rapport au sujet quoi. Donc vous savez ce qu'il vous reste à voir si vous ne l'avez jamais vu. En version française, s'il vous plaît, parce qu'elle est assez.
C'est vrai que la VF,
parce que le père l'acolyte quoi.
Et si vous voulez vous faire votre propre avis, Top Gun Maverick est sorti en salle ce mercredi 25 mai. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Top Gun et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. En plus, pour une fois, tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Donc vous êtes de l'avis de Stéphane, vous n'avez pas aimé le film, ou alors vous êtes plutôt team Julien et Rafik et vous avez des choses à défendre, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saltemppourlerépondeur@gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Junkhead, film d'animation étonnant, tant par sa forme que par l'histoire derrière la prod. En effet, il a été réalisé par une seule et même personne, Takahide Mori. Alors, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? On écoute ça tout de suite.
Junkhead, c'est bordélique. C'est expérimental, c'est confus, mais il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a des plans, des mouvements de caméra, visuellement c'est très intéressant. Et c'est vrai que c'est un film qui est très dur à critiquer parce que du coup ses défauts font et sont aussi ses qualités. Son originalité, sa bizarrerie, sa conception jusqu'au boutiste. Tout ça en fait un objet fascinant et que j'ai envie de défendre un peu plus vertement que vous, parce que là on vous sentait un peu mi-figue mi-raisin. Et qu'en ces temps qu'on vit de production cinématographique très formatée, de voir comme ça un film complètement fou, complètement inconscient, et ben ça fait plaisir. Fait plaisir, et le stop motion, bah c'est cool.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Rafik, Stéphane, merci.
Merci.
Merci à tous.
Et puis merci Alain à la technique.
Merci.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager et qu'on continue à vous proposer des émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com. Mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut!
Voilà, il n'y a rien à voir, dégagez !